VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 9h à Washington, bonsoir et bienvenue. Les parlementaires rivaux en Libye ont débuté aujourd'hui une nouvelle session de négociations. C'est au Maroc, un nouveau round de négociations jugé décisif par l'Organisation des Nations Unies. Claire Morin-Gibou.
Les Nations Unies pèsent de tout leur poids pour que cette nouvelle session de négociations puisse, selon leurs termes, sauver le pays. L'ONU tente depuis des mois de trouver un compromis permettant la formation d'un gouvernement d'union et son émissaire Bernardino León espère un accord avant le début du Ramadan prévu autour du 17 juin. Plongé dans le chaos depuis la chute en 2011 de Muammar Kadhafi et déchiré par des combats entre milices lourdement armées, la Libye est divisée entre deux autorités qui se disputent le pouvoir. Elle fait face en outre à la montée en puissance du groupe État islamique. L'ONU a souligné vendredi que les pourparlers étaient arrivés à un point critique et a appelé toutes les parties à prendre leurs responsabilités face à l'histoire. Il a également rappelé qu'il n'y avait pas de solution militaire possible. Parallèlement aux négociations au Maroc, des représentants de différentes factions libyennes tiennent des discussions périodiques en Algérie. Réunis dimanche au Caire, des responsables égyptiens, algériens et italiens ont apporté leur soutien aux tractations menées par l'émissaire onusien.
Au Burkina Faso, pléthore de candidats à la présidence. Rien que le week-end écoulé, trois prétendants de plus se sont manifestés. Il s'agit de Ablassé Ouédraogo, président du parti Le Faso, autrement, et ex-ministre des Affaires étrangères du président déchu Blaise Compaoré, Adama Kanazoué, président du bureau politique de l'Alliance des Jeunes pour l'Indépendance et la République, et Jean-Baptiste Natama, directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine, ce qui porte déjà à 8 le nombre de candidats. Des précisions avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ouadougou.
Le week-end dernier à Ouagadougou, pour nous les hommes des médias, il fallait pratiquement avoir le don de l'ubiquité pour pouvoir couvrir les différentes rencontre politique d'investiture du candidat. Au jour d'aujourd'hui, les intentions présidentielles affichées sont au nombre de 8, dont 3 militaires, 4 des partis politiques et un candidat indépendant. Mais les rangs vont continuer à grossir encore, car il reste plusieurs partis qui s'apprêtent à investir leurs candidats. Zoumana Ouadougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les États-Unis sont contre un troisième mandat du président rwandais Paul Kagame, une position que Washington a déjà adoptée par le passé face à des situations similaires, notamment au Burundi et en République démocratique du Congo. Les explications du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Robert Jackson, sur la situation au Rwanda, au micro de Nicolas Pineau.
En ce qui concerne le Rwanda, nous comprenons que 3 millions de personnes ont signé une demande que le Rwanda change sa constitution afin de permettre le président Kagame de se présenter pour un troisième mandat de 7 ans. Nous croyons que la démocratie est mieux avancée à travers le développement des institutions fortes et pas d'hommes forts et comme le secrétaire d'État, M. Kerry, a dit à plusieurs reprises, nous ne soutenons pas le changement de constitution afin de permettre une personne ou une partie d'avancer leur propre intérêt et pas les intérêts du pays.
Pour parler clairement, Washington n'est pas favorable à une troisième candidature de Paul Kagame pour 2017.
Nous préférons que le Rwanda ne change pas la constitution. C'est ça. Nous croyons qu'une transition démocratique en 2017 serait une bonne chose.
Robert Jackson, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. En Afrique du Sud, le procès d'Oscar Pistorius, qui purge une peine de 5 ans de prison pour avoir abattu sa petite amie en 2013, sera examiné en appel en novembre, et cela à la demande du parquet sud-africain qui milite pour un verdict plus lourd. Aucune date n'a été fixée pour l'instant, mais nous pouvons confirmer que l'appel aura lieu en novembre cette année, a indiqué à l'agence France-Presse de la Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud. La jeune mannequin Riva Steenkamp avait 29 ans quand Oscar Pistorius l'a abattu durant la nuit de la Saint-Valentin en 2013 en tirant 4 balles de gros calibre sur la porte de sa salle de bain où elle se trouvait. En Afrique du Sud, il est 9h04.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Oui, 15h04 en Afrique du Sud, en Turquie, suite au sérieux revers subi par son parti islamo-conservateur AKP aux législatives d'hier. Le président Recep Tayyip Erdogan demande aujourd'hui aux partis politiques de faire preuve de responsabilité pour préserver la stabilité et la confiance dans le pays. L'AKP a perdu sa majorité absolue, détenue depuis 13 ans au Parlement, mettant ainsi fin aux espoirs du chef de l'État de modifier la Constitution pour instaurer un régime présidentiel. Jacques Aristide.
Le Parti de la Justice et du Développement, AKP en cours, est tout de même arrivé en tête du scrutin, mais n'a recueilli que 40,7% des suffrages et 258 sièges de députés sur 550, d'après les résultats définitifs. Ce qui contraint l'AKP pour la première fois à former un gouvernement de coalition, rapporte l'AFP.
Deuxième et dernier jour du sommet du G7 en Allemagne, au programme des participants, entre autres, des consultations avec leurs homologues des pays africains, notamment le nouveau président nigérien Muhammadu Buhari, qui a fait de la défaite du groupe islamiste Boko Haram une priorité de son mandat. Concernant le conflit irak-ukrainien, le président américain Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel ont déclaré hier que les sanctions économiques contre la Russie pourront être atténuées seulement si Moscou respecte totalement le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. Des précisions, Timothée Donangmaï.
Les deux leaders se sont rencontrés en marge du sommet du G7 dans un village des Alpes bavaroises, un sommet dont est exclu pour la deuxième année consécutive le président russe Vladimir Poutine, dû à l'annexion par son pays de la péninsule de Crimée. Les sept participants sont les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Canada et le Japon. Madame Merkel a déclaré à la presse allemande que Moscou devrait être écarté du groupe des sept à cause de ses actes en Ukraine. De son côté, le président du Conseil de l'Europe, Donald Tusk, a fait savoir que l'UE et les leaders du G7 ne devraient pas vaciller dans leur soutien à Kiev face aux séparatistes pro-russes.
Toujours concernant le G7, le premier ministre irakien Aïd Al-Badi doit s'entretenir avec le président Barack Obama aujourd'hui, et cela en marge du sommet, au sujet de la guerre contre le groupe État islamique. De nouvelles consultations une semaine à peine après que le leader irakien ait réclamé davantage d'aide de la coalition menée par les États-Unis qui effectue depuis près d'un an une campagne aérienne contre les djihadistes. Washington et Paris font état de progrès dans la lutte contre les militants, mais ils reconnaissent aussi que les forces pro-gouvernementales irakiennes ont besoin de davantage de formation et d'équipement pour renforcer leur offensive en cours et pour reprendre les territoires conquis par les djihadistes. Des représentants de l'opposition syrienne ont entamé aujourd'hui une réunion de deux jours au Caire, cela pour tenter de créer un nouveau regroupement élargi contre régime de Bachar al-Assad et d'adopter une charte nationale organisée par l'Égypte. Cette conférence élargie des forces de l'opposition syrienne a pour objectif de définir une vision représentant le spectre le plus large possible de l'opposition syrienne. Environ 150 représentants de différents groupes syriens ont assisté au discours d'ouverture du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, dans un hôtel du Caire. Conflit au Yémen pour le président yéménite Abdou Rabou Mansour Hadi. Les négociations sous l'égide de l'ONU qui commencera dimanche à Genève n'ont pas pour objectif une réconciliation entre son gouvernement et les rebelles chiites houthis qui l'ont forcé à chercher refuge en Arabie Saoudite cette année. Les discussions porteront uniquement sur l'application de la résolution 2216 de l'ONU adoptée en avril qui demande aux houthis de se retirer des régions qu'ils ont conquises et de mettre fin aux violences inconditionnellement, déclare le chef de l'État yéménite. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU dit espérer que toutes les parties négocieront de bonne foi et sans conditions préalables. On termine par du sport avec la Coupe de la CAF en football. Donc, on connaît les différents groupes des phases éliminatoires. Dans le groupe A, on a l'Espérance de Tunis, l'Étoile du Sahel et Al Ahly d'Égypte tenant du titre et bien sûr le Stade Malien du Mali. Dans le groupe B, on a l'AC Léopard du Congo, Orlando Pirates d'Afrique du Sud, le CS Faxien du Tunisie et le Zamalek égyptien. Et donc, pour se qualifier hier, le club égyptien Al Ahly, tenant du titre, s'est fait peur, mais a finalement passé le cap et donc va rencontrer ses homologues de Tunis, de l'Étoile du Sahel et de l'Espérance sportive de Tunis. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce microphone. On se retrouve dans environ 50 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.